Pourquoi l'entretien avec Nicodème? C'est en fait l'histoire d'une rencontre toute personnelle et forte avec un film, son titre. Un condamné à mort s'est échappé. Ce grand film de Robert Bresson, célèbre cinéaste français, chrétien, raconte une histoire authentique. En 1943, un résistant savoyard, le lieutenant De Vigny, est incarcéré au Fort Montluc à Lyon, prison d'ailleurs où se trouvait au même moment le pasteur Roland de Puré. De Vigny, Fontaine dans le film, est condamné à mort. Sa volonté de vivre est pourtant si forte qu'il va réussir à s'évader et à recouvrer sa liberté. Alors, pensez-vous quel rapport avec le texte de Jean? Il y en a un. Précis, étrange. Le film porte en effet, et c'est rare, un sous-titre. Un condamné à mort s'est échappé, ou l'esprit souffle où il veut. Ainsi, le cinéaste éclaire volontairement, consciemment, son œuvre filmique à partir du message de Jésus à Nicodème. À savoir, l'homme, comme le prisonnier de Montluc, peut se libérer et naître à une autre vie. N'empêche, cet entretien avec Jésus-Nicodème a vraiment tout du malentendu. Malentendu, vraiment? En effet, dans ce pseudo-dialogue, Nicodème, le notable religieux de Jérusalem, et Jésus, le Galiléen aux sandales de vent, ne parlent apparemment pas des mêmes choses. Ils ne sont pas dans le même registre. Qui parmi nous, d'ailleurs, n'a pas vécu cette situation étrange, déroutante, parfois angoissante, de l'incompréhension? Quant à l'évangile de Jean, vous savez peut-être qu'il est largement postérieur aux autres évangiles dits synoptiques et a sans doute été écrit dans les années 90, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle. Précisons au passage qu'il s'inscrit dans une évolution et une crise qui éloigne de façon irréversible la communauté judéo-chrétienne à laquelle appartiennent les disciples de Jean du monde juif en général. Et le dialogue que nous abordons aujourd'hui porte les traces de ce conflit. La place de ce dialogue, située au début de l'Évangile, il s'agit donc du chapitre 3, révèle l'importance que prend désormais Jérusalem dans l'action de Jésus. Après la Galilée et les noces de Cana, dont Jean dit que ce fut le premier des signes miraculeux, Jésus monte à Jérusalem pour la Pâque. À peine arrivé dans cette ville, il chasse de sa propre initiative vendeurs, changeurs et marchands installés au temple. Il est bon de préciser que dans le contexte du 1er siècle, ces activités économiques liées aux pratiques religieuses ne semblaient pas incongrues ni illégitimes. On comprend cependant facilement la stupéfaction et la colère du Sanhédrin. Comment supporter un tel affront et la présence d'un trublion qui, de plus, a du succès? Jean en est fait écrit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. C'est donc dans un contexte tendu que se situe cette rencontre improbable, donc passionnante, entre deux hommes, Jésus et Nicodème. Qui est Nicodème? Son existence est confirmée par de nombreux écrits rabbiniques, mais seul l'évangile de Jean atteste de sa présence en trois occasions. Lors de cette rencontre nocturne, puis à l'occasion du procès de Jésus, et enfin au moment de la mise au tombeau. Que sait-on de lui? Que c'est un notable de Jérusalem, un membre important du Sanhédrin, et comme docteur de la loi, il connaît parfaitement l'orthodoxie religieuse et s'est veillé à son respect. Alors, pourtant, il veut connaître l'homme Jésus, l'individu Jésus, et il s'organise pour le rencontrer. La rencontre a lieu de nuit, question de discrétion. Sans aucun doute, Nicodème veut protéger sa réputation. Interrogation sur les miracles qui se sont produits. Puis une question simple, de bon sens, logique. Est-ce de la part de Dieu que tu es venu nous instruire? Jésus ne lui répond pas. Et en fait, il se situe sur un autre plan. Nous sommes donc bien en présence d'un grand malentendu qui donne lieu aussi à un vigoureux dialogue verbal. Ceux qui pensent que les textes bibliques sont éloignés de la réalité se trompent à mon avis. À l'ironie du sage pharisien, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Répond celle du jeune Galiléen. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? Alors quel constat? Est-ce un échec? Pas exactement. Nicodème, comme sans doute beaucoup d'entre nous, se trompe en toute bonne foi de registre. En effet, Jésus, bien évidemment, agit en guérisseur, en thaumaturge, comme beaucoup de personnes à cette époque-là. Mais il existe une toute autre dimension dans ces paroles. Dimension qui concerne autant une nouvelle naissance que la présence et la puissance de l'Esprit. Et c'est seulement ce second aspect que je voudrais maintenant privilégier avec vous. Pneuma, en grec, désigne l'Esprit, mais aussi le vent. Alors, laissons de côté les images fades, usées, trop souvent liées à l'expression Saint-Esprit, pour retrouver la force des mots. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de toute personne qui est née de l'Esprit. Alors, cela signifie que il s'agit de bien autre chose, qu'il s'agit d'une réalité, d'une évidence, que l'image du vent, Nerma, nous aide à percevoir. Chacun de nous a eu l'expérience de ce phénomène naturel, sensible, concret. Le vent, à la fois invisible et réel, le vent à la fois faible et violent, le vent puissant, le vent tout-puissant, le vent libre d'une liberté absolue. Il en va ainsi de l'Esprit Saint. Alors, en dépit de nos limites, de notre incapacité à tout savoir, à tout comprendre, ce texte est une invitation à être des hommes libres. C'est-à-dire, il nous revient librement, volontairement, consciemment, de percevoir le souffle de l'Esprit. Qu'en est-il de Nicodème? Quelque peu bousculé par les paroles de Jésus, il ne répond pas. Il se tait. Mais bientôt, une démarche intime, personnelle, librement décidée, est conduite à choisir et à témoigner. Par exemple, lors du procès, il va oser dire en public, devant les autres membres du Sanhédrin, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Plus tard, il choisira d'être là lors de la mise au tombeau, apportant myrrhe et aloès selon la tradition. À mon avis, signe ultime de respect, d'affection et d'amour. Et maintenant, qu'en est-il de notre propre vie? L'Esprit souffle aussi pour chacun de nous, et tel le vent, il nous donne aussi à percevoir et parfois déchiffrer le monde qui nous entoure, afin d'y partager une espérance commune. Alors, quel signe pour nous, aujourd'hui, en ce dimanche d'octobre? D'abord, ne pas être sourd au bruit de l'Esprit, même si nous ne savons pas, même si nous ne savons d'où il vient, ni où il va. Ensuite, quand même, une invitation à demeurer fidèle à un vrai discernement, tourné vers la lucidité et l'exigence. Enfin, et surtout, un appel à être un guetteur, un veilleur, comme le titre de la célèbre cantate de Bach, dont nous allons entendre ensuite le principal thème. Un veilleur prêt à accueillir la réalité du monde et des êtres, tels qu'ils sont, mais avec l'esprit. Alors, sans doute, le bruit du vent et de l'esprit sera un signe pour nous. Je vous invite à chanter le cantique 36. Pardon.